Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Vous avez l'impression de l'avoir toujours connu. Son nom est associé à 1000 objets ou situations dans lesquels vous avez regardé des formes, des couleurs qui émanaient de son œuvre et que vous reconnaissiez immédiatement. C'est Vasarely. Un artiste peut être maudit d'avoir été tant vu sans nécessairement avoir été compris. Un envahisseur certainement de notre paysage consumériste et urbain, mais aussi, et on le sait moins, un inventeur, un découvreur, un artiste radical au fond. Il y a quelques années, vous lui auriez, comme moi, à l'époque du président Pompidou, reproché d'avoir sucé le sang de la vérité de l'art comme un Dracula de Transylvanie, tant son lien avec la reproduction, le déploiement industriel vous semblait excessif et peu romantique. Aujourd'hui, peut-être que, comme moi encore, vous réviserez votre point de vue en découvrant les sources de son travail, l'idéal qu'il poursuivait et le rêve qu'il a voulu construire grâce à l'exposition Vasarely, le partage des formes, qui se tient du 6 février au 26 mai au Musée national d'art moderne. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir les commissaires de l'exposition, le fameux conservateur au Musée national d'art moderne, Michel Gauthier. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Bon, c'est en plein accrochage, il reste quelques minutes ou...
C'est en plein accrochage, les choses avancent bien, on commence déjà à avoir une idée de ce que sera l'exposition.
Ouais. Une catastrophe comme prévu ?
À vous de juger.
Vous êtes conservateur au Centre Pompidou, critique d'art, vous avez fait des œuvres, des expositions très importantes, par exemple chez Laïx récemment, une artiste que nous aimons beaucoup, textile, fantastique.
Absolument.
Mais vous avez fait des choses plus classiques comme Brancusi, Richard Serra, etc., Gursky. Mais là, ce sont des textes dont
vous parlez. Ce sont des textes,
oui. Vous vous intéressez à littérature, Henry James, Francis Ponge, Blanchot et le fameux Cadio. C'est un livre récent ?
Non, c'est un livre qui a maintenant une bonne dizaine d'années, qui s'appelle Le Facteur Vitesse, qui a été consacré à un seul ouvrage, un seul roman de Cadio, qui s'appelle Retour définitif et durable de l'être aimé.
Alors le facteur vitesse, c'est le dynamisme qui habite peut-être le monde tel que le voit Vasarely. Et donc pour faire cette exposition, vous êtes associé au fameux historien, évidemment Arnaud Pierre. Bonjour Arnaud, vous allez bien ?
Bonjour, très bien.
Bon, on vous a souvent reçu ici, vous êtes vous aussi professeur d'histoire de l'art. Vous avez publié de nombreux textes importants sur Kupka, Picabia, Serrusier. On en a parlé ensemble et nos auditeurs s'en souviennent. Et vous avez organisé particulièrement une exposition qui s'appelait L'œil moteur à Strasbourg et qui a recréer un intérêt pour un art que l'on pensait abandonné, qui était l'art cinétique, qui avait, dont le public s'était détourné depuis la fin des années 70 à peu près, non ?
Le public, oui, mais pas les artistes finalement. Et la raison de ce retour, c'était essentiellement les artistes finalement. Parce qu'il y avait un volet contemporain en fait à cette exposition, avec des gens comme Ugrep, comme Philippe de Crozat.
C'est vrai que c'est les artistes qui, les premiers, ont fait le retour, la relecture en fait. Hein.
Exactement, qui se sont remis à regarder tout cela à la fin des années 90. Et c'est le moment qui coïncide avec celui d'une redécouverte également par les historiens de l'art.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que je disais, peut-être en exagérant et en plaisantant, qu'il y a une certaine malédiction qui est tombée sur Vasarely de la part de sa surexposition ?
Oui, certainement. Oui, c'est un retour de bâton assez classique en fait. Hein, quand on occupe à ce point le terrain, non seulement des formes, mais le terrain médiatique aussi, comme ça a été le cas avec Vasarely pendant si longtemps, on s'expose en effet à des retours de fortune et puis à ce que le balancier du goût reparte dans l'autre sens.
Et... Michel Gauthier.
Ouais, non, si vous me permettez, peut-être pour compléter ce que disait Arnaud, c'est pas moi au fond qui devrais dire ça, mais je vais quand même le dire. C'est aussi un artiste qui a fait sa carrière hors des musées, qui a adopté des circuits de diffusion, de présentation de son travail hors des musées. Et d'une certaine façon, les musées ne lui ont pas pardonné.
C'est une très bonne introduction parce que Vasarely va nous expliquer dans un instant. C'est un entretien sur la RTF du 4 mars 1963. Pourquoi le tableau n'est plus une référence dans son propre travail. Écoutons-le.
Nous sommes obligés d'être organisateurs, n'est-ce pas, et constructeurs pour la simple raison, n'est-ce pas, que l'art que nous préconisons, n'est-ce pas, est un art qui dépend des techniques qui le porteront, notamment l'architecture, n'est-ce pas. Je ne suis plus pour le tableau. On fait des tableaux, n'est-ce pas, mais les tableaux sont des prototypes d'épargne, si vous voulez, renfermant en puissance les éléments d'une beauté future et qui sera matériau de construction. Ces matériaux de construction comporteront, n'est-ce pas, cette beauté intrinsèque, n'est-ce pas, qui nous est nécessaire. Je veux parler, n'est-ce pas, de la forme couleur, n'est-ce pas, qui est élément important pour l'homme, exactement au même titre que l'oxygène. Exactement au même titre, n'est-ce pas, que le sourire, que la joie.
En fait, inventer une beauté du futur, Arnaud Pierre, c'est ce qui semble l'avoir motivé dès le début, mais peut-être que pour cela, il s'inspirait de son premier environnement artistique au début de son existence, puisque tout de suite, il a voulu s'associer à des professeurs qui avaient été influencés par... au fond, des idées post-révolutionnaires, pourrait-on dire.
Oh, bah, complètement révolutionnaires, même, en fait. Alors, il a voulu s'associer... il a découvert, en fait, complètement par hasard, qu'existait quelque chose que nous identifions bien aujourd'hui, qui est le constructivisme, qui est le Bauhaus, etc. Lui a commencé de manière très, très... j'allais dire classique, oui, en apprenant le dessin sur modèle, en faisant des choses absolument banales, de ce côté-là, à vrai dire.
Il a commencé par vouloir être médecin.
Alors oui,
ça n'a pas duré longtemps.
Brièvement,
mais il y avait un intérêt pour la science qui peut-être va ressurgir quelquefois.
Il y avait un intérêt pour la science. Enfin, bon, il faut sortir un petit peu des légendes aussi qui tournent autour de Vasarely. C'est quelqu'un qui voilà a étudié la comptabilité et puis un petit peu les langues, qui s'est retrouvé en fait à travailler à la fin des années 1920 à Budapest dans ce contexte-là en fait. Hein, il a travaillé pour des entreprises étrangères installées à Budapest et complètement par hasard, parce qu'il a justement quelques petits talents en dessin classique, on lui propose de réaliser des projets publicitaires. Ces projets publicitaires sont publiés dans une revue de l'époque où il découvre en fait la publicité moderne telle qu'elle est conçue effectivement par les artistes constructivistes, par ceux du Bauhaus. Et il découvre aussi dans ces revues-là une annonce pour le petit Bauhaus de Sandor Bortnik, qui est un grand représentant du constructivisme en Europe centrale, qui a été formé à l'école du Bauhaus en Allemagne et qui, très modestement, dans un tout petit atelier, enfin dans un tout petit appartement en fait de 3 pièces dans Budapest, monte une école sur les principes du Bauhaus. Et donc, Vasarely y entre en 1928, il y reste un petit peu plus, un peu plus d'un an.
Faut dire qu'on est très près du Bauhaus de Gropius dans les dates.
C'est juste après. Il existe en live d'ailleurs, il n'est pas encore fermé.
Il est fermé
par les nazis en 1933.
Voilà, donc il avait commencé en 1925.
Contemporain, en effet.
Mais peut-être faut-il dire à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que l'idéologie du Bauhaus, tout de même, peut-être, Michel Gauthier?
C'est quelque chose qui va marquer Vasarely toute sa carrière jusqu'à la fin. L'un des grands axes de ce modernisme-là, c'est au fond la remise en cause d'une certaine façon de la frontière qui sépare l'art et la vie. C'est l'idée de prendre pleinement en charge les questions de diffusion du travail, les méthodes de production et les questions de diffusion, la remise en cause aussi de la séparation entre le grand art et les arts appliqués. C'est d'ailleurs essentiellement une formation de graphiste que reçoit Vasarely avec Bortnik. Et ça, Vasarely va le garder toute sa vie, même quand il va faire le choix de devenir pleinement artiste au sens où nous l'entendons généralement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il conservera toujours cette idée de remise en cause fondamentale, radicale de la frontière entre le grand art et les arts appliqués.
Est-ce que c'est la colonne vertébrale de votre exposition ? Parce que, au fond, c'est quand même l'aspect le plus attachant de son travail, l'un des aspects très attachants de son travail, c'est l'ambition, l'idéal qui le nourrit.
C'est un des fils rouges, en effet, oui, parce que donc c'est une vocation d'artiste, en fait, assez tardive, finalement, hein, celle de Vasarely. Pendant toutes les années 30, c'est effectivement un graphiste. Il est installé à Paris à ce moment-là. Il réussit d'ailleurs très, très bien dans ce domaine. Et tout l'œuvre de graphiste de Vasarely montre un esprit de recherche qu'il fait découvrir un certain nombre de jeux formels, de jeux de structures, de jeux d'illusions d'optique, etc., qui condense en réalité un très grand nombre d'inventions qui vont servir ensuite à l'artiste qu'il sera dans la deuxième moitié des années 50, dans les années 60, 70. Donc il apprend en fait avec la publicité le langage de la forme efficace d'une certaine manière. Il va dépouiller cette forme efficace, des slogans qui l'accompagnaient en quelque sorte, des slogans publicitaires, pour ne plus garder que la forme et élaborer effectivement toute une œuvre sur cette question.
Les œuvres donc qu'il va faire au début, donc il y a ce travail graphiste qui est très beau, d'ailleurs il est déjà de très bonne qualité, et puis on voit des répertoires d'associations, de vibrations de couleurs, d'opposition très très marquées, noir-blanc, et des vibrations comme
des
surfaces qu'on va retrouver très rapidement. Mais Bortnik, qui est son professeur, que je ne connaissais pas, c'est loin d'être médiocre comme artiste. C'est un petit peu dans l'esprit Schlemmer, un petit peu...
On fait venir deux petits Bortnik de Budapest qui nous montrent une figure comme ça du modernisme qui serait située quelque part entre De Chirico et puis Lissitzky, enfin quelque chose comme ça, ou Schlemmer. Oui, absolument. Non, c'est pas un artiste secondaire. Hein.
Et alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que là, il découvre une avant-garde que l'Europe de l'Ouest ne connaissait pas. Je pense en particulier à tout ce qu'il peut dire. Qu'est-ce qu'il découvre?
C'est un milieu effectivement beaucoup plus avancé que le milieu parisien, par exemple, au même moment. Et Vasarely va le découvrir. Il s'installe à Paris et il constate que parmi ses amis artistes, personne ne connaît ni Malevitch, ni Lissitzky, ni même le Bauhaus, en fait.
Ce qu'en France, on connaîtra mieux vers 78, grosso modo.
Voilà.
Donc ça fait quand même 50 ans de différence. Par contre, il a pas l'air d'être très enthousiaste de ce qu'il découvre de la France. Le cubisme de Picasso, ça le passionne pas énormément.
Apparemment non, mais parce qu'il réalise aussi, en constatant en effet ce pourquoi les gens montrent de l'engouement autour de lui, qu'au fond l'art ne l'intéresse pas. Il le dit quasiment comme ça en fait. Hein. L'art, ou disons la peinture, était telle qu'on la comprend dans son entourage immédiat. Lui effectivement va aller au-delà de ça. Enfin, il a appris en réalité à dépasser l'art pour l'art, pour créer des formes utiles, hein, d'une certaine façon. Et ça va le guider effectivement pendant très très longtemps, et lui donner en effet le fondement de méthodes complètement renouvelées par rapport à la création. Ce qu'on a entendu au début de l'émission, là, ce propos de Vasarely, il est très très important. Hein. Il théorise ce qu'on a entendu là, en fait, dès le milieu des années 1950. Il nous dit que l'art, c'est avant tout une espèce, c'est une idée en quelque sorte. Hein. Donc l'idée va pouvoir cristalliser sous la forme de ce qu'il appelle donc un prototype départ, c'est-à-dire une toute petite œuvre, hein, une chose de petite dimension qui va ensuite pouvoir être agrandie aux dimensions, oui, d'un tableau de chevalet, pourquoi pas, mais aussi aux dimensions de l'architecture, ou donner une tapisserie, ou donner un poster, ou une sérigraphie, etc., etc. Particulier en fait attaché à l'objet d'art, en fait.
Oui, l'œuvre, d'une certaine façon, est déchargée de son aura. Elle peut être reproductible, agrandissable à l'infini. Et donc, il parle pas tellement de création. Cette création, il l'a fait comme on fait une fonction mathématique, mais de recréation, parce que c'est l'interprétation de l'œuvre, finalement, qui se déroule. C'est quelque chose comme ça, Michel Gauthier?
Absolument. Il a une conception tout à fait révolutionnaire. J'espère que l'exposition et le catalogue que vous avez entre les mains permettront de...
J'ai pas vu l'expo, mais le catalogue est formidable.
Non,
nombre d'informations et les textes sont très très intéressants. Je le recommande.
Ça permettra de le mesurer. Le nom de Vasarely, pour moi, est vraiment attaché à une mutation radicale dans l'histoire de l'art par-delà les échos de l'époque, les années 70, les couleurs, enfin tout ça qui existe et qui est important. Mais son nom est attaché à une mutation radicale. C'est quelqu'un qui est au fond en train de penser que la peinture, les arts plastiques sont susceptibles de connaître un statut qui est un peu proche de celui de la musique. Il parle même, disant, il y aura des Toscanini de l'art. Après, au fond, il écrit une partition. Simplement, il va peut-être pas jusqu'à penser ça complètement comme une partition, mais Arnaud Pierre parlait du prototype départ, et ce prototype départ, ensuite, il est interprétable. Enfin, il est très de soi-même, très en avant. Parmi les expositions que j'ai faites il y a quelques années au Centre Pompidou, j'ai fait une exposition consacrée à Claude Ruteau. Et d'une certaine façon, je trouve un lien très, 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 très fort entre la conception qu'a de l'art, de la peinture Claude Ruteau, qui permet à ses preneurs en charge de réaliser les œuvres, de choisir les couleurs.
Il leur propose des systèmes et de...
Absolument. Et Vasarely, d'une certaine façon, est le père de cette mutation-là, ou l'un des pères de cette mutation, est très en avance sur beaucoup
de choses. Quand il arrive en France, donc très tôt, vers 1930, hein, donc il y a des artistes dont il se sent proche tout de suite, ou il est très isolé, qu'est-ce qui se passe ?
Il est proche de quelqu'un comme Beauty, par exemple.
Le grand sculpteur américain qui vivait en France à ce moment-là.
Non, hongrois. Hongrois. Alors c'est une des raisons de leur rapprochement.
Ah, d'accord, d'accord.
Justement.
Ils ont une forme très pure, comme des flammes en bois, verticales, etc.
Oui, très bel artiste, en effet. Mais je pense que son activité propre, en fait, de graphiste, le tient quand même un petit peu à distance dans ces années-là, hein, vraiment du monde de l'art, à proprement parler. C'est vraiment dans les années 40 que quelque chose change, hein, et dans les années de l'occupation, lorsqu'il rencontre celle qui va devenir donc Denise René, celle qui crée avec Vasarely.
Alors Denise René, c'est la très très grande marchande qui voilà. va changer, on peut dire, la face de l'art en France dans les années 50 et qui va faire
la traîtresse de l'abstraction géométrique, quelque chose comme ça.
Absolument. Et dont la galerie ouvre avec une exposition de Vasarely. Alors justement encore des travaux graphiques, des travaux publicitaires des années 30. Mais la seconde, ce sera déjà un autre Vasarely. Vasarely qui, entre-temps, a aussi croiser la route des jeunes artistes que sont à l'époque, Soulage, Atlan,
François Morellet,
Schneider, François Morellet, un tout petit peu
plus tard. Donc il est en 57 à peu près, non
Oh oui, mais milieu des années 50.
Années 50.
Vasarely a joué un rôle important d'ailleurs dans l'introduction de Morellet.
Il y a une anecdote assez intéressante, c'est que comme Morellet à cette époque-là, François est industriel, il fait des petites comment ça s'appelle, des poussettes pour les enfants, des poussettes, voilà, des poussettes pour enfants. Il lui propose de les animer, de les décorer, d'en faire des éléments de couleur qui se déplacent dans le réel,
plus que ça, il lui propose en fait de réaliser ensemble les moyens de produire un art à la machine.
Un art à la machine.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est la suite de... les moyens de production pour réaliser des tableaux en série, en fait.
Alors il y a un antécédent. Non, c'est Molinodge, non ?
Absolument, les tableaux téléphonés, dont on ne sait pas exactement...
Mais en quelle année à peu près pour les tableaux téléphonés ?
Alors, on est en 22-23, donc on est à cette... Oui, il s'inscrit dans cette histoire-là. C'est la première partie de l'exposition s'intitule les avant-gardes en héritage. Nous voulons vraiment que le public visitant l'exposition sache d'où il sort. C'est quelqu'un qui... Il ne naît pas, même si le public le connaît, le grand public le découvre... au moment où Harold est célèbre, mais au fond, il a 20 ans, puis il naît en 1906, hein, il devient célèbre en même temps qu'Harold, mais il a 20 ans de plus, il vient de là. Donc la première partie de l'exposition est consacrée à ça. Vasarely, c'est ça, il vient de là, quoi. C'est vraiment, et toute sa vie restera un héritier de ça. Mais dans ce souci, oui, de diffusion, d'appliquer les œuvres à partir de prototypes départ, il va très loin, et lui-même d'ailleurs n'hésite pas à en rajouter presque dans la provocation, hein, disant moi ça me gêne pas qu'il y ait des Vasarely sur des kilomètres de torchons.
Enfin, oui, j'ai vu ce passage, c'est extraordinaire.
Moi c'est ce Vasarely séculier là qui me passionne. Oui.
Mais alors, avant de rentrer dans le Vasarely séculier, d'ailleurs je crois que c'est le titre de votre article dans le catalogue.
C'est pas le titre, mais ça
c'est
dit
ça. C'est ça dont ça parle, hein, la sécularisation, c'est-à-dire la désacralisation de l'art. Voilà, c'est quelque chose auquel Morellet sera d'ailleurs très 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 sensible, ce qui ne l'empêchera pas de faire des je parle pas de Morellet mais de Vasarely, de faire des vitraux. des vitraux pour la cathédrale d'Évry, par exemple, mais qui ont un sens plus esthétique.
Mais que... ça ne l'empêchera pas non plus de ne pas avoir tout à fait compris Morellet, en réalité. Parce qu'il consacre à Morellet un grand article en 58 qui est très très intéressant, mais où on voit un Vasarely qui projette en fait sur Morellet ses propres obsessions cosmiques, par exemple. Hein. Lui, il voit des étoiles qui clignotent dans les entrecroisements de trames de Morellet.
Ça me fait plaisir que vous parliez de ça, parce que je voulais, avant de qu'on se plonge dans le monde pop de Vasarely, je voulais quand même qu'on parle un petit peu de ses influences intellectuelles, scientifiques, néo-spirituelles, pourrait-on dire presque, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux ou trois scientifiques qui l'influencent beaucoup, et aussi une sorte de philosophie moniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'histoire?
Alors complètement, oui. Bah le monisme, c'est une espèce de religion scientifique qui a été très en vogue autour de 1900 et au-delà, jusque dans l'entre-deux-guerres.
Ou on pourrait dire en deçà, parce que l'idée de l'unité de la matière, l'unité du monde,
c'est... Oui, mais alors portée, c'était à l'époque dont nous parlons, par de véritables scientifiques, et puis renouvelée par les découvertes de la science, en fait, qui semblent donc mettre au jour, en effet, des lois qui unifient complètement le monde, la matière et l'esprit, d'ailleurs, faisant de l'esprit une fonction de la matière, une continuité, en fait, de l'évolution même de la matière. Et Vasarely a été en contact avec cette philosophie-là à travers quelqu'un qui s'appelle Wilhelm Ostwald, qui était un scientifique allemand, chimiste essentiellement, mais qui a aussi consacré une énorme partie de sa carrière à la théorie de la couleur. Et sa théorie de la couleur a eu beaucoup d'influence justement auprès des gens du Bauhaus, et elle était enseignée au MUELI, l'école donc de Bortnik à Budapest, par laquelle Vasarely est passé. On peut penser aussi que
c'est une théorie quasiment atomique de la couleur, non? Au fond, c'est quelque chose.
Alors, sur le plan.
Atomiste, j'aurais dû dire, plutôt qu'atomique, d'ailleurs.
Oui.
Atomique, ça aurait pu à Vasarely.
Oui, non, parce qu'il a la conscience de vivre dans un monde atomique.
Oui,
très pro-nucléaire, on y reviendra tout à l'heure, c'est vrai. Mais c'était le nucléaire, la version, comment dirais-je, au service du public. C'était pas
civil.
Oui, absolument.
Mais enfin, si ça vous intéresse, la théorie d'Ostwald de la couleur, c'est une théorie qui en fait donne beaucoup de place au dégradé, en fait, à la couleur dégradée, à l'intrusion dans chaque couleur de quantités proportionnelles de noir ou de blanc. En fait, ce sont les gris en fait qui altèrent la couleur, qui donnent leur caractère à la couleur chez Ostwald. Ça donne un nuancier très fin, très raffiné, qu'on retrouve justement absolument sans mal dans la palette de Vasarely, qui lui-même a dit à quel point la mise au point.
Parce qu'au début, il travaillait avec 5 ou 6 couleurs, très peu de couleurs, et ensuite il a complexifié grâce à Ostwald. Mais il y a toujours eu. Est-ce que je me trompe, ou est-ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a chez Vasarely, à partir de cet intérêt pour la science, un goût, je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel Gauthier, de retrouver une sorte d'énergie à l'œuvre dans le monde. Quelque chose qui, alors, au fond, rappelle le biomorphisme, rappelle
des... Oui, alors Arnaud en parlera sans doute beaucoup mieux que moi. Je te laisserai la parole. Mais je démarre simplement, je te passe la parole. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, alors qu'il se trouve sur les plages de Belle-Île, l'île bretonne, à la fin, en 47 ou 48, dans ces années-là, est complètement submergé par une espèce de sentiment de l'unité des choses en voyant les vagues. Enfin, je veux dire, tu en parles beaucoup mieux que...
Mais c'est quasiment une révélation mystique.
Oui, il y a quelque chose.
Il y a un petit peu de ça, en effet. Oui. Il comprend, l'espèce d'unité des forces qui façonnent le monde, en fait.
Et donc, il comprend la relation
entre le galet et la vague, entre le galet et le soleil.
Aussi. Il devait dire Paul Valéry, Palinos, on a ces phrases sur le galet et la vague. Est-ce que c'est une... manufacturé, ou est-ce que c'est fait par la nature? Est-ce qu'on retrouve les énergies faites par la nature? C'est assez dans l'esprit du temps aussi, mais c'est très beau.
En tout cas, ce qui est vrai dans ce que vous avez dit, c'est que c'est quelqu'un qui perçoit beaucoup les énergies. Au fond, nous tenions à ce que la partie de notre exposition qui est consacrée à ce qu'on aurait pu appeler la naissance de l'op art au milieu des années 50, lorsqu'il crée, il s'impose comme le chef de file du mouvement optico-cinétique avec l'exposition Le Mouvement chez Denise René. D'une certaine façon, il eût été assez légitime. On aurait attendu qu'on l'appelle naissance de Lopart. Et Arnaud Pierre et moi, nous souhaitions l'appeler énergies abstraites pour bien faire comprendre que c'est ce sentiment de l'énergie qui est à la base, qui est à la racine de la naissance de Lopart chez Vasarely, plus qu'autre chose. Enfin, je sais pas.
Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de simples jeux d'optique, comme on l'entend parfois avec art optique, optical art.
Oui, on
etc.
le simplifie, on est vieux. Très simplifié, je pense, de Vasarely, en fait.
Non, effectivement. Il y a bien autre chose derrière ça. C'est un art même encore complètement iconographique, si on peut dire. Donc bien sûr, ce sont des choses abstraites, en noir et blanc, très vibrantes, etc. Mais comme il le dit lui-même, ce sont des tableaux qui fonctionnent selon un système, alors de ce qu'il appelle ondes d'un côté, particules de l'autre. Donc il y a des tableaux avec des trames qui bougent. Hein, c'est les ondes. Il y a des tableaux avec plutôt des formes fragmentées. C'est ce qu'il appelle les particules. Et donc tout ça lui vient en effet de classification scientifique.
On avait un peu ça chez Kupka, on pourrait dire. Non, c'est exagéré.
Non, pas du tout.
Je voudrais vous faire écouter, puisque vous parlez de Lopart, et puis il faut qu'on sache ce que c'est. Je voudrais vous faire écouter un entretien fait avec un des grands admirateurs de Vasarely. Nous sommes en 68, Michel Polnareff.
Monsieur Vasarely, je me promène depuis un petit moment là dans cette pièce. Et je vois des tableaux qui sont tous plus étonnants les uns que les autres et qui appartiennent, je crois, à un style qu'on nomme le Hop Art. Alors je voudrais que vous me disiez pour quelle raison on appelle ça le Hop Art d'abord et pourquoi un nom anglais.
Oui, écoutez, c'est surtout de 1952-53, n'est-ce pas, que je m'adonnais à des recherches tout à fait spéciales, n'est-ce pas. Et à ce moment-là, j'appelais ces recherches des recherches cinétiques. Cinétisme veut dire tout simplement mouvement. Mouvement dans la peinture, n'est-ce pas, qui jusqu'alors était, pour ainsi dire, banni. L'idée, au bout de quelques années, a énormément plu, comment dirais-je, aux Américains, et c'est à ce moment-là qu'un manager a décidé d'appeler, comment dirais-je, cette tendance de la peinture optical art, c'est-à-dire avec abréviation op art, n'est-ce pas ? C'est devenu évidemment une affaire colossale aux États-Unis, n'est-ce pas ? Mais l'intention des Américains et les miens sont essentiellement différentes. Il y a d'abord une recherche fondamentale au niveau de l'atelier, n'est-ce pas? Recherche de la forme couleur, recherche de l'unité plastique, etc. Jusqu'ici, on assistait, n'est-ce pas, à une peinture extrêmement importante, n'est-ce pas, qui était la peinture de Chevalet. Cette peinture de Chevalet s'adressait, si vous voulez, à l'appartement. C'est-à-dire, une bourgeoisie extrêmement aisée a pu acquérir, n'est-ce pas, cette toile, à des prix extrêmement élevés, bien entendu. Et alors, ainsi, on pouvait parler, comment dire, de la peinture de Chevalet. Mais la promotion de l'humanité a nécessité, si vous voulez, un art qui va au-delà, si vous voulez, de l'appartement, c'est-à-dire qui sort dans la rue. Je veux parler notamment de quelque chose d'extrêmement important, c'est l'intégration, et non pas la décoration, comment dire, dans l'architecture. Il faut que l'art devienne dans une certaine mesure, si vous voulez, gratuit, n'est-ce pas? Il faut que notre temps produise son propre style en peinture, n'est-ce pas? Comme il y avait un style gothique, il y avait un style baroque, n'est-ce pas? Il y avait un style de 1900. Eh bien, aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut parler d'un style intégré, si vous voulez, dans la vie de tous les jours. À tel point, n'est-ce pas, que la peinture figurative en soi est pour ainsi dire, complètement reléguée, enfin, jusqu'à nous à l'ordre, dans le deuxième plan. Love me. Please love me. Je suis.
Silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais et brûler ma vie.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez, contrairement à ce que vous pensez, l'art est la matière. Nous entendions Michel Polnareff, intervieweur de Vasarely, et sur le son de son premier disque, hein, c'est la face A, nous sommes en 67 et c'est le début du grand Polnareff que nous aimons et qui avait une passion donc pour Vasarely, ce que j'ai découvert dans votre exposition, Michel Gauthier.
Alors, nous souhaitions, Arnaud et moi, que notre exposition ne mette pas de côté un fait très important et qui est une des caractéristiques, à mon avis, essentielles de l'histoire de Vasarely. C'est la façon tout à fait étonnante dont ses formes, ses couleurs ont pénétré l'imaginaire populaire de la France des années 60 et 70. Et au fond, c'est l'un des rares artistes issus du Bauhaus qui ait réussi à ce point à concrétiser dans un moment de l'histoire d'une société donnée ses idées. Et le choix de cet extrait d'interview avec Polnareff est magnifique. D'ailleurs, nous l'avons dans l'exposition. Nous avons fait un montage d'un certain nombre d'extraits, de clips télévisés, d'interviews qui montrent à quel point il était présent dans la culture. Vous verrez Gilbert Bécaud chantant dans un décor, dans une émission de Jean-Christophe Averty, avec un décor inspiré de Vasarely. Donc,
donc il a réussi un projet qui n'était pas seulement de devenir une vedette comme les yéyés de l'époque, mais qui était au fond d'infuser la société. Est-ce que c'est un projet politique ?
Alors moi, je pense que c'est un projet politique. Je crois que
il en parle. Il était engagé politiquement.
Il avait la carte du Parti communiste français. Mmh. Et oui, c'est un projet politique. Simplement, lui ne croyait pas du tout dans l'art engagé, c'est-à-dire dans un art qui véhicule des messages engagés, mais qui au fond ne changent pas. Enfin, je veux dire, exposer sur les murs d'une galerie des slogans politiques ne change strictement rien. Dès lors, ce qu'il proposait, c'est non pas une peinture politique, mais c'est une nouvelle politique de la peinture, hein. C'est vraiment ça. Et il pensait que la beauté a une vertu politique et que si on veut changer quelque chose à la société, quand on est artiste, le seul moyen de le faire, c'est de travailler à une diffusion sociale plus grande du travail.
En fait, c'est l'impression qu'il espère arriver à un âge d'or. Je me souviens d'une... Je vous lis un tout petit extrait qui est dans votre catalogue. C'est Vasarely qui parle. Il dit « L'âge atomique », vous en parliez à l'instant d'ailleurs, « l'âge atomique se dessine avec la nouvelle cité géométrique polychrome et solaire. » L'art plastique sera cinétique, multidimensionnel et communautaire, abstrait à coup sûr, rapproché des sciences. Dénonçons les nostalgies du passé, aimons notre époque, qui sera une haute époque un jour. Finissons-en avec la nature romantique, notre nature à nous, c'est la biochimie. La biochimie, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, et puis là, ce qui s'exprime là, c'est aussi une adhésion totale, en effet, à une idéologie qui est celle du progrès, qui est celle...
De Pompidou aussi.
Oui, voilà,
c'est les années Pompidou, avec cet optimisme.
La société où il a vécu pendant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Voilà, ce qui fait de Vasarely, en effet, sans doute l'artiste par excellence, avec Nicolas Schoeffer, avec son compatriote Nicolas Schoeffer.
Ils étaient très amis.
Très amis, ils se connaissaient. Ils font un art assez différent, mais ce sont quand même deux œuvres qui sont restées identifiées comme étant, au fond, voilà,
Nicolas Schoeffer, c'est exemplaire aussi avec un goût pour l'architecture comme projet majeur, en fait, non?
Oui, tout à fait. Oui, donc on retrouve aussi, avec la ville cybernétique chez Schoeffer, donc la cité polychrome chez Vasarely, il y a des projets en effet assez proches, là.
Je voudrais vous faire écouter un instant un autre entretien de Vasarely, et vous verrez, à la fin, nous citons quelqu'un qui a aimé aussi beaucoup Vasarely, et qui est aussi inattendu que Michel Polnareff, peut-être, pour le grand public en tout cas. Nous sommes en 67.
Si vous me posez la question « Est-ce que je suis un peintre ?», d'abord, je vous répondrai « Je suis plutôt un chercheur comme un scientifique. » Et dans la mesure que mes recherches arrivent, n'est-ce pas, à s'exprimer dans des fonctions dans la cité, je deviens utile pour cette société de consommation qui est la nôtre. J'ai comme le sentiment que le chemin, la voie que j'ai choisie, qui était d'ailleurs largement tracé déjà par mes prédécesseurs, que c'est la voie par excellence qui mène vers une sorte d'enrichissement une sorte de promotion de notre société. Et cette promotion découle de toute la marche de la vie, ce qu'on observe ici à l'Occident, de ce bassin de la Méditerranée, est partie une civilisation, une culture qui est la nôtre et qui a abouti au fond dans cette civilisation hautement technique et machiniste qui devient au fond le point de mire du globe tout entier. Parce que quel que soit le pays ou le continent que nous observons, partout on constate les mêmes aspirations d'avoir d'abord des biens de consommation matériels, une habitation décente, des appareils ménagères, une voiture, une radio, une poste de télévision, et sur un degré supérieur, des biens de consommation, enfin dites psychiques, c'est-à-dire pour satisfaire vos besoins psychiques.
L'étrangeté de l'espace, c'est Space Oddity de David Bowie que nous entendions à l'instant, qui a demandé, puisque c'est lui dont nous parlons dans l'Art et la Matière sur France Culture, en ce moment même avec Arnaud Pierre et Michel Gauthier, David Bowie qui a demandé, de façon totalement étrange me semble-t-il, mais vous allez expliquer pourquoi, la couverture à Vasarely, la couverture de Space Oddity, son deuxième album.
Oui, ça s'est fait au fond sans Vasarely, hein, dans un premier temps. C'est le graphiste qui travaillait avec David Bowie, Vernon Dewhurst, qui a conçu ce photomontage, cette incrustation du visage de Bowie dans une sérigraphie, dans l'image d'une sérigraphie de Vasarely. Mais la rencontre s'est quand même produite par la suite, dans les années 70, quand David Bowie, en tournée en France, s'est vu demander ce qu'il aimerait faire, ou qui voir en fait à Paris. Il a demandé à aller voir Vasarely. Hein, et donc une rencontre s'est faite, des photographies en témoignent, etc. Mais là, avec cette pochette de disque, ce qui est fascinant, c'est aussi qu'on rencontre le Vasarely pop, justement le Vasarely fasciné par les dimensions cosmiques, celui qui alimente par ses lectures scientifiques toute une espèce de rêverie sur le cosmos, qui est aussi un volet que essaye de montrer très largement l'exposition.
Michel Gauthier, c'est l'époque qui veut ça.
Oui, mais il y avait quand même, si la rencontre s'est faite entre, d'une part, Bowie n'était pas à l'initiative de ça, mais a validé la couverture, oui. L'a trouvé très très bien. Et si ensuite il voulait voir Vasarely, c'est que les deux hommes avaient cette fascination commune pour la science-fiction. Je vous rappelle, Space Oddity, c'est la chanson qui a accompagné à la BBC la retransmission des premiers pas de l'homme sur la Lune. Les deux hommes ont communié d'une certaine façon dans une même passion pour la science-fiction, mais la présence d'un Vasarely sur la pochette, sur la pochette de l'album de Bowie, c'est aussi le signe de ce qu'était devenu Vasarely à ce moment-là, c'est-à-dire un marqueur de modernité. On le voit dans la mode, on le voit partout, je veux dire, c'était devenu...
Dans les décors des studios de télévision...
Voilà, on va le montrer ça, là on fait venir aussi une des plus belles, parce que on parlait d'architecture, d'intégration, on était un peu ennuyé qu'il n'y ait que des images de ça, donc on s'est dit, il faut absolument recréer quelque chose, et on a trouvé les moyens de faire venir la salle à manger d'honneur de la Banque Centrale d'Allemagne à Francfort, qui a été conçue par Vasarely et son fils Ivaral au début des années 70, et on l'a fait venir panneau par panneau.
Ivaral, c'est l'anagramme de Vasarely pour...
Voilà, et qu'on recrée dans l'espace d'exposition pour que... Et on voit là, on baigne dans les années 70, dans cette esthétique, c'est une intégration à Arnaud qui est tout à fait exemplaire.
Non, c'est magnifique, oui, puis alors, donc, c'est l'occasion justement de rendre aussi un petit peu hommage à Ivaral, peut-être, voilà, qui disait qu'on peut être fils du père et saint d'esprit. C'était un artiste parfaitement à l'aise dans ce qu'il faisait, très conscient de ses propres capacités, et qui a fait quand même beaucoup aussi, d'une certaine manière, pour le Renan de Vasarely, puisqu'il a travaillé avec lui sur la réalisation du logo Renault, que l'on attribue donc toujours à Vasarely, mais Ivaral est beaucoup derrière cela. Le motif également de la station RTL, hein, le grand mural qui couvrait la façade de la station RTL à Paris.
Et qui a été enlevé pourquoi? Parce qu'il était enlevé il y a 3 ans, c'est un peu...
Même moins que ça.
L'an passé, parce qu'RTL déménageait.
Ah si, mais il n'est pas détruit.
Non, il n'est pas détruit, non.
Ils vous l'ont offert, j'espère.
Nous sommes en train de chercher une nouvelle localisation, et c'est la Fondation Vasarely qui a récupéré la pièce lorsqu'elle a été déposée.
On va en parler de la Fondation Vasarely dans quelques instants. Mais je voulais... Est-ce que Vasarely n'a pas été envoyé sur la Lune également?
Alors oui, d'une certaine façon, enfin nous finissons d'une certaine façon, Arnaud Pierre évoquait les rêveries cosmiques, et la formule est celle qui intitule la dernière partie de notre exposition, et nous finissons cette exposition et donc cette partie sur un clin d'œil, puisque nous montrons effectivement une sérigraphie que Vasarely, qui était quand même un peu barré d'une certaine façon de ce point de vue-là. Il tenait absolument à ce que des sérigraphies de lui voyagent dans l'espace, ce cosmos qu'il faisait rêver. Il voulait aussi que ses œuvres y partent. Et il avait demandé à Jean-Loup Chrétien, le premier spationaute français, d'emmener des sérigraphies. Et on montre une sérigraphie qui a été signée dans l'espace par Jean-Loup Chrétien et les deux cosmonautes russes, parce que c'était un vol franco-soviétique, au début des années 80.
Alors, mais est-ce que... Donc, il y a cette diffusion extraordinaire des multiples de Vasarely. Il n'y a pas un mug sans un multiple de Vasarely, etc. Lui, ça lui est égal. Il dit l'important, c'est qu'une nouvelle beauté surgisse dans le monde. Mais est-ce que il n'a pas fait le contraire exactement de ce qu'ont fait les constructivistes, c'est-à-dire s'arrêter d'être artiste pour se mettre à construire la société? Est-ce qu'il n'a pas travaillé, lui, d'une certaine façon, sur la fin de l'art? Est-ce que ce n'est pas la fin de l'art qu'il annonce? Michel Gauthier, à vous.
Pas fastoche, hein. C'est la fin d'un certain art, c'est la fin d'une forme de conception. Au fond, avec Vasarely, mais c'était une mutation qui s'était déjà engagée au début du XXe siècle avec les constructivistes. Au fond, Vasarely, dans la société des années 60 et 70, et avec les moyens de cette société et l'idéologie de cette société-là, c'est quelqu'un qui tente de faire passer l'art de statut, de moyen d'expression, au statut de quelque chose qui est uniquement un outil de production. Enfin, il y a cette... Et c'est quand nous parlons de sécularisation, c'est ça que nous avons en tête aussi, hein. Et c'est ça aussi qui hérite des avant-gardes historiques. L'idée, hein, d'une rationalisation parfaite des processus de production, l'opart s'appuie, les effets visuels s'appuient sur la maîtrise totale d'un vocabulaire. Et en ce sens...
Mais d'un vocabulaire dans lequel il y a une... des individuations,
c'est pas ça se dit. Totalement. Une recherche d'anonymat.
Mais au fond, et un art collectif qui ne laisse pas tellement le libre choix d'une esthétique. C'est un art. Peut-être c'est ça qui a été insupportable à la fin des années 70, quand on voyait les survivances du Vasarely populaire, au début des années 80. Oui. C'était qu'on le voyait partout. Il n'y avait pas un panneau de co sans un Vasarely. Et on s'est dit, on nous impose quelque chose.
Oui. Et pourtant, loin de lui, cette idée-là, à vrai dire. Enfin, bon, en même temps, il y a une forme de mégalomanie, c'est vrai, mais enfin, qui est propre à quand même beaucoup de grands artistes. Mais ce par quoi il prolonge aussi en fait le projet des avant-gardes, c'est par plus que ce goût, cette croyance, cet investissement dans l'idée de l'universel en fait, hein, qu'il pense en termes, qu'il repense en termes entièrement nouveaux dans les années, à la fin des années 50, dans les années 60, à un moment où il perçoit ce qui est en train de se passer sur la planète, c'est-à-dire en fait un processus de ce que l'on appelle aujourd'hui la mondialisation, la création du village global, etc. Et donc,
il en voit toutes les vertus possibles.
Oui, il prétend inventer en fait l'art qui sera l'expression de cette conscience collective en fait qui est en train de naître. Donc, en fait, pour lui, il n'y avait pas vraiment de contradiction disons, non pas imposer, mais en tout cas à répandre en tout cas son vocabulaire, puisque celui-ci répondait justement aux besoins d'une planète dans laquelle, au fond, les différences allaient s'estomper et où l'humanité allait vivre finalement selon des espérances et donc des expressions esthétiques communes.
Michel Gauthier.
Oui, en cela d'ailleurs, il est l'héritier d'une assez longue tradition. C'est un des grands récits de genèse de l'abstraction, que l'abstraction puisse être considérée comme un langage universel, Herbin et quelques autres. Non, tout à fait, oui. C'est,
mais qui lui fait dire quand même, on va écouter ce qu'il en dit d'ailleurs au micro d'une voix typique des années 70, qui est la voix de Jacques Chancel, « L'artiste est un mot démodé », dit-il. Écoutons-le.
L'artiste est un mot, pour moi, dans une certaine mesure, démodé. Alors, l'artiste, je crois, c'est un phénomène type, n'est-ce pas, créé, n'est-ce pas, par les événements suivants. D'abord, un espèce de cul-de-sac, n'est-ce pas, où la peinture est arrivée, plus exactement la Renaissance, n'est-ce pas, qui en évoluant ne pouvait que se dégénérer pour arriver à ce qu'on appelle le néoclassicisme, n'est-ce pas, c'est-à-dire deux fois rien. Pour nous, probablement énormément de choses, vous comprenez, pour d'autres. Encore une fois, n'est-ce pas, je donne le droit, vous comprenez, à toute subjectivité de choisir, vous comprenez, et de préférer. Alors donc, vers la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, bien, certains peintres, cette fois-ci, géniales, entre autres, par exemple, Manet, ils découvrent, au fond, ce qu'on appelle la peinture. En même temps, il y a une sorte de divorce entre les branches principales, si vous voulez, des arts plastiques, l'architecture, sculpture et la peinture commencent à marcher isolément. Et ceci convient considérablement à un très grand pouvoir, n'est-ce pas, qui se forme et qui est déjà d'ailleurs en route depuis très très longtemps, n'est-ce pas. C'est la bourgeoisie, n'est-ce pas, c'est les véritables créateurs, si vous voulez, de la vie moderne, de la technologie, vous voyez, de la société de consommation, du capitalisme, des supranationales, etc., etc., etc. Donc, le rôle est loin d'être négligeable, au contraire. Mais leur avènement est en même temps une sorte de changement d'éthique, n'est-ce pas? Ils disent, bon, le peintre, il était jusqu'ici l'esclave du Seigneur, n'est-ce pas, ou de l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, il sera libéré, n'est-ce pas? Il sera le héros, n'est-ce pas, la vedette, si vous voulez, de notre société. Ainsi est né, au fond, cette sorte de vedettariat et l'artiste peintre, n'est-ce pas, qui, séparément, si vous voulez, des arts plastiques, indépendamment de l'architecture, n'est-ce pas, à laquelle les autres peintres, si vous voulez, étaient liés, fait son propre chemin. Et pour lui, la carrière, n'est-ce pas, et la réussite matérielle comptent beaucoup plus que l'œuvre proprement dite.
Silence, que le jour viendra après la nuit. Qui peut dire si le jour sera bleu ou bien gris? Si l'on sait que l'hiver reviendra tous les ans, ce que sera l'hiver, nul ne le sait vraiment.
Et cette jolie voix fluette que vous entendez, celle de Françoise Hardy, c'est dans l'émission L'Art et la Matière sur France Culture, où nous parlons curieusement de Vasarely. Et effectivement, Françoise Hardy, pourquoi? Parce qu'en 67, elle se fait photographier en robe Saint-Laurent devant les installations de Vasarely. Et où est-ce que nous sommes à ce moment-là? Je ne sais pas, mais c'était pour Jour de France, en tout cas, n'est-ce pas, Michel?
C'est pour Jour de France, oui. Alors, Vasarely, nous avons retenu cette image dans le catalogue parce que Françoise Hardy est une des figures iconiques de cette période et qu'elle est très belle. Mais effectivement.
Et puis, c'est la vedette, exact, c'est dont, la vedette, dont on parle. Dont,
absolument,
dont mais. Parle Vasarely, et qu'il essaye de devenir lui aussi, peut-être.
Mais.
La vedette, il a dit ça. Oui, tout à l'heure, il a dit ça, il a dit la vedette, c'est très intéressant.
Vasarely, à cette époque, c'est une vedette, c'est voilà. Une culture, la vedette.
Bah, c'est bon. Et une voiture. Maintenant, c'est devenu complètement commun de penser cela, qu'effectivement, les artistes sont devenus des sortes de vedettes, oui. Des figures, au fond, voilà, emblématiques de la manière dont les mass médias répercutent aujourd'hui, voilà, les hiérarchies sociales, etc. Et dans le même extrait, Vasarely dit très très clairement ce que nous essayons d'articuler là depuis le début, et à travers l'exposition et le catalogue, à savoir qu'en effet, l'art n'a plus à rendre hommage comme cela aux puissances politique ou à celle des églises, et que maintenant c'est pas l'art pour l'art, mais en tout cas l'art est devenu lui-même cette sorte de puissance qui structure, qui façonne au fond la société, l'image qu'elle se donne, les relations sociales elles-mêmes d'une certaine façon.
Alors on peut parler avec Vasarely du scientifique, du cosmique, du politique. Il y a quelque chose dont on parle pas tellement, mais j'ai l'impression que ça a eu une influence sur lui, et c'est la lumière. Il me semble que l'idée qu'il a de faire une fondation très expérimentale dans le Midi, mais aussi des découvertes qu'il fait quand il est à Gordes, la lumière a de l'importance pour un artiste abstrait comme cela.
Absolument.
Mécaniste.
Oui, parce que ce qui l'intéresse, c'est au fond il y a des peintres qui s'intéressent à la peinture. On pourrait dire que c'est ce qui caractérise les grands formalistes de l'abstraction américaine. Et puis, il y a des peintres qui s'intéressent non pas à la peinture, mais à la perception. Et Vasarely entre dans cette catégorie. Et dès lors qu'on s'intéresse à la perception, on s'intéresse à la lumière. Et vous parliez de Gordes. Effectivement, nous avions pas évoqué le séjour à Belle-Île à la fin des années 40, mais pratiquement dans les mêmes années, il découvre le village provençal de Gordes, la lumière, et là c'est tout à fait une révélation qu'il fait. Il va se rendre compte de la relativité de nos perceptions, un carré qui d'un côté, une découpe dans un mur qui apparaît blanc va apparaître noir de l'autre côté, la géométrie angulaire sous ce sol du village, sous ce soleil écrasant, rend instable dans notre esprit la perception des plans, la profondeur.
Vous dites dans votre texte, il se rend compte de l'incompétence de l'œil.
Absolument, il se rend compte d'une forme de, et il se rend compte de ça, de la relativité. Vous voyez, ce qui soutenait la grande peinture américaine, c'était l'idée qu'on avait un œil qui voyait tout d'un seul coup, qui était capable de qui n'était même à peine relié à un cerveau. Là, Vasarely a la compréhension que l'œil est relié à un système nerveux, à un cerveau, à un corps. Et donc, c'est sous le soleil de Provence, avec des plaques de verre. Au fond, Smithson, quelques années après, dans le Yucatan, ira déposer des miroirs pour s'aveugler. Bah, d'une certaine façon, Gordes, c'est le Yucatan de Vasarely. C'est là qu'il prépare la révolution à venir.
Ouais. Ouais, enfin, alors moi, je pense en plus que tout ça, qui est très très juste, s'accompagne d'une véritable pensée transformiste, en fait. Hein.
C'est transformiste ou illusionniste
Vasarely pense qu'effectivement rien de stable n'existe en fait. Absolument. Dans la réalité, tout se transforme de manière perpétuelle, la matière est en état de transformation permanente, et son art de l'instabilité veut rendre compte de cela en fait. De ce point de vue là, pour moi, c'est quelqu'un qui est très très proche des maniéristes en fait. Hein, cette pensée transformiste, elle est au cœur finalement du maniérisme et de ce qui se passe au fond après le classicisme. Et ce que fait en fait Vasarely avec la géométrie des constructivistes, qui était une géométrie finalement relativement stable, relativement fixe, et qui représente pour nous aujourd'hui un moment effectivement classique de l'histoire de l'abstraction, c'est tordre tout
oui,
cela.
Il y a une aberration anatomique des maniéristes qu'on retrouve dans les aberrations
scopiques. Voilà, absolument. Voilà. L'anamorphose également, enfin, toutes ces déformations reflètent un même état d'esprit finalement chez Vasarely, qui est vis-à-vis des constructivistes plus historique, un petit peu ce qu'un Pontormo était vis-à-vis de Raphaël, en fait. Hein, quelqu'un qui utilise les mêmes lois, hein, mais qui les pousse à l'extrême pour, au fond, arriver, au fond, à les rendre aberrantes, hein, en les poussant comme ça tellement loin.
Alors, quelques mots peut-être sur ce qui va se passer dans le Midi aussi, puisqu'il reste comme ça dans l'ombre, si je puis dire, de la montagne Sainte-Victoire. Il va créer une fondation. Quel est le projet de la fondation? Est-ce qu'il n'est peut-être pas allé au bout, mais il voulait aller où? C'était quoi l'expérience?
C'était de montrer en fait aux professionnels finalement de la ville, de l'architecture, ce que l'on pouvait faire avec son langage. Parce que la fondation, c'est une série d'alvéoles hexagonales très hautes qui comprennent autant d'exemples d'intégration architecturale, donc de motifs comme ça typiquement vasaréliens, exprimés oui, à la hauteur gigantesque de ces murs et dans différents matériaux dont la construction pouvait disposer à l'époque, et ça va donc de la céramique au staff, de la lubrossée à la tapisserie même en fait, voilà, donc autant d'exemples de cela qui contribuent à faire de cette fondation aujourd'hui bien plus qu'un simple catalogue.
On la voit en passant devant l'autoroute, donc maintenant il faut s'arrêter.
Voilà,
on peut la visiter, Michel Gossier?
Bien sûr. Et oui, il faut la visiter parce que c'est la chapelle Sixtine de l'art cinétique. Hein, et il faut vraiment la mettre à ce niveau-là.
Je ne pense pas du tout.
Les travaux de rénovation s'achèvent. Oui, il avait. D'ailleurs, à l'origine, ça ne s'appelait pas la Fondation Vasari, ça s'appelait le Centre Architectonique. Hein, c'est le titre original. Il avait deux projets. Comme le disait Arnaud Pierre, il voulait donner au fond un modèle de cette architecture concevable, imaginable à partir de son vocabulaire, et il voulait aussi montrer aux professionnels alors, de l'art que nous sommes comment montrer ces tableaux et comment ces peintures, ces créations plastiques et comment les faire vivre. Hein.
Voilà. C'est une cité idéale au sens de la Renaissance qu'il voulait faire.
Probablement, oui. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a une pensée utopique.
Oui, c'est un utopiste. C'est clair. Oui.
Et alors, vous avez, dans quelques minutes, comme ça, vous allez ouvrir l'exposition, vous avez le sentiment que ces préjugés que nous avons eus dans le passé vont basculer, enfin en tout cas en vous écoutant, moi je bascule. Hein.
Nous l'espérons parce que, vous l'avez dit, tout le monde connaît Vasarely et en même temps personne peut-être ne le connaît. C'est quand même un artiste qui est lié à deux très très grands projets. Après, on a vis-à-vis de chacun de ces projets la position qu'on entend avoir. Mais quelqu'un qui souhaite séculariser l'art aussi profondément, c'est un projet à part entière. Et puis, il est quand même lié à, Arnaud Pierre en parlait, à la révolution optique, à quelqu'un qui bouleverse la matrice optique du modernisme. Et ça, c'est pas rien. Un artiste qui est lié à deux grandes révolutions, deux grands projets dans sa carrière. Beaucoup des artistes qu'on aime ne sont liés à aucun grand projet.
En fait, est-ce celui qui accomplit presque parfaitement les utopies artistiques du début du XXe siècle?
Bah, il les accomplit en même temps, il est de son temps également, voilà, il décède dans les années 1990, il a emporté ça aussi.
À 93 ans.
Oui, il a emporté ça aussi beaucoup plus loin en fait. Hein, et il a fait vivre cette utopie à l'intérieur du contexte particulier de l'après-guerre et des Trente Glorieuses. Donc ça n'était pas non plus celui de l'entre-deux-guerres. Et c'est celui, donc en effet, comme on le disait tout à l'heure, de cette première phase de la mondialisation, de ce moment de la mondialisation. Et il a souhaité, au fond, donner à cette humanité mondialisée, son art lui-même universel.
Merci infiniment Arnaud Pierre, merci beaucoup Michel Gauthier. Nous irons voir donc Vasarely et son partage des formes, l'exposition que vous avez préparée pour nous.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Michel Gauthier, merci Michel, et Arnaud Pierre, merci Arnaud, les commissaires de cette vaste exposition qui va ouvrir dans quelques heures donc au Centre Pompidou et qui sera au centre jusqu'en mai, je crois.
6 mai.
Jusqu'au 6 mai. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Éric Boisset, réalisation Philippe Baudouin. Merci beaucoup Philippe. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Eh bien, bon après-midi sur France Culture.